De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama avec beaucoup de films aujourd'hui, des films qui sont dans les salles depuis fin novembre et puis d'autres qui sont dans les salles depuis le 4 décembre et un blind test. Bonjour Manu, bonjour Marine.
Bonjour à tous. Bonjour.
Alors le sommaire aujourd'hui, Marine.
Alors pour ma part, eh bien, je vais avoir trois films français, un film d'animation qui s'appelle Le Voyage du Prince, le dernier film de Guédi Guian, Gloria Mundi et le dernier film de Dominique Moll, Seules les Bêtes.
Et puis toi Manu, américain et chinois.
Et chinois. Et donc le nouveau film de Rian Johnson, Un couteau tiré, et puis un film chinois, donc Un été à Changsha.
Et puis moi, je vous parlerai du meilleur reste à venir de Mathieu Delaporte et Alexandre de Patelière. Et ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial Patrick Bruel, puisque Patrick Bruel joue dans ce film aux côtés de Fabrice Lucchini. Ainsi débute Cinérama et on prend tout de suite des nouvelles de Dominique Moll qu'on avait vu avec Lemming et Harry, évidemment un ami qui vous veut du bien.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Tu sais ce que c'est l'amour? L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. Es-tu prêt à donner ce que tu n'as pas?
Sur les hauts plateaux des Causses, après une tempête de neige, la police constate la disparition d'une femme. Autour d'elle, plusieurs personnes liées de près ou de loin à sa disparition, dont nous découvrons la vérité l'une après l'autre, puisque l'histoire est racontée selon cinq angles de vue différents. Dominique Moll, auteur de thrillers à l'ambiguïté soignée, tels que Lemming ou Harry, un ami qui vous veut du bien, adapte pour ce nouveau film le roman de Colin Niel. En résulte un film choral dans lequel s'entrecroisent cinq destins allant des Causses à Abidjan en passant par Sète.
Tu t'en vas.
Et dans mon cœur, ce n'est rien que quelques semaines à Satan.
Mais tu t'en J'ai peur de l'hiver et du froid.
Michel.
J'ai peur du vide, de l'absence.
Bon, c'était pas une pause musicale, hein, c'était vraiment.
C'est vraiment en effet une musique qui revient à plusieurs moments dans le film. Alors justement, il est assez difficile finalement de parler du film sans trop en révéler, mais c'est vraiment une réussite. Dominique Moll emmène le spectateur dans un imbroglio parfaitement maîtrisé, dans lequel on croit se perdre au début avant que tout ne se démêle petit à petit. Les ramifications de cette intrigue complexe se dévoilent pendant deux heures assez haletantes. Et le film ose aborder, il y a entre eux des thèmes très divers tels que la ruralité, l'adultère, les arnaques sur Internet même, tout en composant une galerie de personnages assez fascinants, portés par de très bons comédiens. On retrouve Damien Bonnard, à l'opposé de son personnage de flic des Misérables, ici dans un rôle taiseux et inquiétant. Valeria Brunitelski, qui trouve sûrement son meilleur rôle depuis longtemps. Et puis Laure Calamy, surtout, qui se voit enfin offrir un premier rôle à sa mesure. Alors c'est un film ambitieux, qui joue sur divers registres. Le thriller sombre, le film presque fantastique, qui ose amener dans le réel quelques éléments surnaturels, et le drame social. Je crois vraiment que ça ressemble à rien pour ma part de ce que j'ai pu voir récemment dans le cinéma français, et c'est un compliment. Voilà, vraiment, je le conseille.
Et puis avec deux acteurs qui ont des vraies gueules, je trouve, il y a une vraie présence devant
Denis
la
Ménochet,
caméra.
Oui, j'en ai pas parlé, mais il est excellent aussi.
Et Damien Bonnard. Voilà, donc c'est Seules les Bêtes de Dominique Moll en salle depuis le 4 décembre. Et puis, eh bien, on va prendre des nouvelles d'un autre réalisateur, c'est Rian Johnson qui nous avait fait Looper et puis un des Star Wars.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Cette famille est totalement désespérée. Lorsque les gens sont désespérés, ils sortent les couteaux.
Si vous savez quelque chose, dites-le.
Je soupçonne un acte criminel.
Justement, y a-t-il une vie après Star Wars pour les réalisateurs? On peut se poser la question, parce que c'est pas souvent évident de rebondir après des gros succès comme ça. Alors, à la vision d'un couteau tiré, on pourrait affirmer que oui. Rian Johnson, alors plutôt que de céder aux sirènes de gros blockbusters, change de cap et s'oriente vers un genre d'habitude destiné à un public va dire vieillissant, hein, le Woody Knight à la Agatha Christie, hein, véritable inspiratrice de cet exercice de style. Alors tout commence dans la plus pure tradition littéraire des histoires retors imaginées par l'écrivaine anglaise. Un auteur à polar à succès est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans, la gorge tranchée par un rasoir. Avant de conclure à un suicide possible, le détective Benoît Blanc est engagé par un commanditaire anonyme dans le but de résoudre l'affaire, si bien sûr l'enquête préliminaire conclut à un meurtre.
C'est à la demande de l'un de mes clients que je suis venu.
Quel client ?
Je ne suis pas autorisé à le dire, mais je peux vous assurer que ma présence s'avérera des plus discrètes. Vous trouverez en moi un observateur discret et particulièrement silencieux. De la vérité.
Alors, Benoît Blanc, hein, fait la connaissance de la famille de l'écrivain, hein, suffisante tribu bourgeoise, alors agrippée à la fortune du romancier, tandis qu'autour, le petit personnel lui est resté dévoué, alors particulièrement la jeune infirmière, Martha, entièrement à son service. Alors, elle devient rapidement le nerf du récit, hein, malin comme une sorte de Columbo, mais en moins prolo, Blanc sent qu'elle est un peu la clé de cette enquête complexe qui prend une tournure intéressante au bout de 40 minutes lorsque l'intrigue semble résolue. Ça, c'est l'aspect très curieux. Et on se demande après comment le film va avancer, puisqu'il reste bien deux tiers. Alors, il est évident que l'affaire est bien plus machiavélique que prévu. Alors, Rian Johnson revient à la source, au thriller à tiroir, comme pour son premier long métrage, l'excellent Brick, récit alambiqué inspiré par les romans de Chandler. Cette inspiration littéraire se retrouve dans À couteau tiré, formidable divertissement à l'écriture parfaitement ciselée et servi par une troupe de comédiens absolument parfaits, à commencer par Daniel Craig, presque dans un contre-emploi, assez génial en détective, plus malin qu'il ne semble l'être. Alors la laideur morale des membres de la famille du défunt, loin d'être une lubie misanthrope des auteurs, sert plutôt de catalyseur pour dresser un portrait vachard d'une Amérique hypocrite et réac, repliée sur elle-même, le manoir étouffant symbolisant à merveille ce pays qui ne fait plus rêver grand monde. Alors cette dimension politique est traversée par un humour décapant, dynamité par des dialogues qui font mouche et un rythme effréné jusqu'à la révélation finale, alors moins inattendue que prévu. C'est peut-être là que le film déçoit un tout petit peu, aussi parfaite que soit la mécanique, elle ne surprend guère. Mais était-ce l'intention ? On a l'impression que Rian Johnson ne souhaite pas tant que ça, ne souhaite pas vraiment nous égarer, mais au contraire de nous amener à repenser l'intrigue et trouver la solution. Johnson dépoussière le genre tout en restant fidèle au code narratif et visuel, bousculé néanmoins par le sous-texte d'un film, on va dire, brillant et ludique et mis en scène quand même avec classe.
Ça veut dire qu'il y a deux conclusions. Non seulement on peut revenir, enfin on peut faire autre chose que Star Wars, et on peut sortir aussi de 007 pour Daniel Craig.
Oui, effectivement.
Ouais, voilà. Allez, là, après avoir aimé un film, Marine, tu vas nous parler d'un film que tu n'as absolument pas apprécié. C'est le dernier Guédiguian qui nous montre la vieille garde qui vaut mieux que la jeunesse. C'est à peu près ça.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Tu vas rentrer chez toi avec Nicolas, hein ? Tu vas dîner en amoureux. Pas se laisser avoir par toute cette merde de notre époque.
Mais le plus important, c'est s'entraider. Puis si entre nous, on ne se tient pas les coudes, tout disparaît.
Pas vrai, Gloria ?
Oui, on a reconnu donc la voix de Daroussin et de Ariane Ascaride, hein, comme toujours chez Robert Guédiguian. Daniel, qui était incarcéré depuis longtemps, retrouve sa famille à Marseille. Son ancienne femme, qui a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Sa fille, qui vient d'avoir un bébé, prénommé Gloria, qui va de petit boulot en petit boulot, difficilement épaulé de son mari, qui lui est chauffeur Uber. Dans une conjoncture économique inhumaine, Daniel découvre que chacun essaye de s'en sortir comme il peut, au détriment parfois de la solidarité. Dans son nouveau film, Robert Guédiguian confronte deux générations. L'ancienne génération, ses comédiens fétiches, donc Ariane Ascaride, Daroussin, Gérard Mélan, qui sont avec lui depuis ses premiers films, hein, Marius et Jeannette, La ville est tranquille, ou plus récemment, Lady Jane et les neiges du Kilimandjaro. Et puis la nouvelle génération, Anaïs de Moustier, Grégoire le Prince Ringuet, Robinson Stévenin, qu'il a associé plus récemment à son cinéma, comme dans L'armée du crime ou dans La villa. Son idée, on la comprend assez vite en connaissant déjà un petit peu son cinéma, son désir en tant qu'auteur, c'est de montrer à travers ses relations familiales et amicales comment la société dans laquelle nous vivons nous pousse vers l'individualisme, crée des rivalités au sein même des familles et comment eh bien, cette société nous fait renoncer aux luttes collectives pour ne plus penser qu'à notre propre survie. Gloria Mundi, c'est le film d'un homme encore et toujours en colère et on ne saurait lui reprocher de rester engagé et enragé. Sauf que c'est aussi eh bien, le film d'un homme qui choisit de montrer la jeunesse comme une génération non pas sacrifiée, mais qui sacrifie ses valeurs, notamment sur l'autel du consumérisme. on aurait quand même difficilement pu rendre ces quatre personnages de trentenaires plus méprisables. Alors même s'il est très intéressant de voir enfin Anaïs de Moustier dans un rôle profondément antipathique, l'écriture sans aucune nuance de ces personnages laisse un peu dubitatif, voire excessivement énervé. Selon Eddie Guian, les jeunes ne pensent qu'à se tromper les uns les autres, se droguer, se critiquer. Ils regardent toujours les mêmes clips de rap à la télé. Ils n'ont aucune empathie, vénèrent l'argent et ne se serrent mais alors absolument pas les coudes. Oui, ça fait quand même beaucoup pour un seul film, d'autant que les seniors sont à l'inverse, dépeints comme solidaires, courageux et optimistes. Deux triangles amoureux prennent place en miroir dans le film. L'un exalte l'entraide, l'abnégation, la tolérance. Oui, c'est le triangle amoureux des seniors, vous l'aurez compris. Tandis que l'autre, évidemment, est prêt à tous les coups bas. Alors, Eddie Guian s'appesantit, force le trait, parfois même à coups de ralenti. Et ça, c'est tout aussi impardonnable que ses défauts d'écriture. Osant aller vers une tonalité sordide qu'on ne lui connaissait pas jusque-là et laissant sa mise en scène tomber par moments dans le pathos. Alors, on peut avoir le plus grand respect pour sa filmographie, mais il est quand même très dommage, quand on est autant dans l'engagement comme Eddie Guian, de régner à ce point la nouvelle génération, celle qui va prendre la relève, en choisissant d'en montrer que les pires aspects dans un film, je trouve.
J'ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'il faut lui dire qu'il est grand-père. Si tu le fais pas, tu le regretteras.
T'as peut-être raison. Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'ils se connaissent, sans plus.
Il a tué des gens?
Non, il s'est défendu parce que sinon, c'est lui qui y passait.
C'est du prénom, ça, Gloria.
Pourquoi tu crois qu'on fait pas d'enfants, nous? Parce qu'on veut réussir.
Pensez qu'à vous.
On n'a même pas de quoi ce pays nourrisse, Nico. Voilà, on est des moins que rien.
Voilà, Gloria Mundi de Robert Guédiguian en salle depuis fin novembre. Et puis là, maintenant, nous allons parler d'un film qui est en salle depuis le 4 décembre. C'est Le meilleur reste à venir du duo Mathieu Delaporte, Alexandre de La Patelière, qui nous donnera l'occasion de jouer un blind test.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Tu rentres bien tard, dis-moi.
Mais qu'est-ce que tu fous là?
Je m'installe ici. Je te quitte plus.
Ils avaient frappé un grand coup il y a déjà 7 ans avec Le Prénom, un film en huis clos dans un appartement qui reprenait le succès de leur pièce de théâtre ou comment le prénom d'un enfant allait faire ressurgir de vieilles rancunes et des secrets bien gardés. Et voilà que le duo Mathieu Delaporte, Alexandre de La Patelière, qui sont deux scénaristes et dialoguistes accomplis, sortent leur deuxième long métrage. Le meilleur reste à venir avec un casting qui fait l'essentiel du film, Fabrice Lucchini, Patrick Bruella. Je dis cela car il s'agit d'un buddy movie, entendez, un film de potes. Donc ces deux-là, avec leur relation, leur connivence, leur désaccord, leur amitié seront de toutes les séquences.
Ça va sans doute vous paraître fou, mais je ne suis pas malade.
Vous n'êtes pas malade?
Non, en fait, c'est lui qui est malade.
Alors, on est dans le cœur du sujet, car la comédie aime bien se nourrir de quiproquos. En échangeant leurs dossiers médicaux, deux amis croient chacun que l'autre a un cancer. Alors, d'un côté, on a Lucchini, enfin Arthur Dreyfus, et de l'autre, Patrick Bruel, ou plutôt César. L'un est chercheur, renfermé, droit dans ses bottes, quand l'autre est vieil adolescent de 50 ans, toujours à chercher des conquêtes. Alors, lui croit évidemment que c'est son ami qui est gravement malade, et il a une idée. Pendant ces 2 mois qu'il reste, profiter de la vie entre potes.
Tu choisis un truc, je choisis un truc, et l'autre est obligé de le faire.
Je ne prends pas l'avion, je te préviens.
Non mais ici c'est pas la démocratie, t'as envie de négocier, tu t'inscris à la CFDT.
Mais je suis inscrit à la CFDT.
Oh, putain.
La construction narrative de la première partie de cette comédie s'appuie sur le caractère opposé des deux amis, puisque beaucoup de choses les séparent, ils ont beaucoup à se dire. Alors le problème c'est que ce ressort comique est plutôt balisé et que ce n'est pas forcément quand les deux se retrouvent ensemble qu'on s'amuse tellement, ça sent le réchauffer, mais plutôt quand ils sont seuls, quand par exemple César, Patrick Bruel donc, décide d'aller demander conseil à un curé.
J'avais une question, mais...
Je ferais au mieux, mon fils.
Si vous pouviez ne pas m'appeler mon fils, ça m'arrangerait, parce que je m'entends très très mal avec mon père et ça me...
Appelez-moi Bernard.
Ah, ça va pas être possible. C'est le prénom de mon père, justement. J'ai un ami qui est très malade. Et j'aimerais prier pour lui. Mais il est juif catholique. Alors, je sais pas quel dieu prier.
Il n'y a qu'un seul dieu, César.
Oui, il n'y a qu'un seul dieu, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur lequel.
Et votre ami est pratiquant, n'est-ce pas?
Pas tellement.
Et vous, alors?
Séfarade de droite, très simple. Un petit shabbat de temps en temps, tout le monde est content.
Et par souci d'équilibre, Lucchini a aussi droit à son petit numéro.
C'est quoi ça?
Ça a été envoyé à tout le monde.
Vous vous foutez de ma gueule?
C'est pas moi qui ai écrit ce mail.
Ah, c'est qui alors? Les Russes?
Vous m'avez déjà vu faire des fautes d'orthographe? Jamais. Regardez ici, par exemple. Codaven, tu n'es qu'un susboule. Boule est au singulier. En général, on dit sucer des boules, pas sucer une boule. Donc, ça méritait un S. Là, tu es incompétent. Incompétent, l'incompétence, le con qui paie. Mais je suis désolé, il fallait un E et non pas un A. Là, quand il dit face de...
Ça va. J'ai compris.
Bon, la séquence s'étire en longueur, hein, mais elle est quand même plutôt ravissante. Alors, on a là un comique de situation et de bons mots qui font ronronner cette comédie, qui, si elle est bien écrite, manque quand même d'originalité. Elle l'est d'autant moins qu'elle se gargarise de poncifs. Ainsi, Lucchini, qui lit des livres, est forcément ennuyeux, alors qu'on soit cadra ou quinca, voire sexagénaire, en mal dominant français, ça va te faire plaisir, Marine. On trouve toujours une femme qui a 20 ans de moins. Alors, rien de bien malin dans cette écriture, au contraire de quelques séquences qui font mouche. Bon, la deuxième partie de cette comédie tire vers les larmes, car il y a un temps où il faut bien que le spectateur admette que celui qui est atteint d'un cancer doit nous quitter, hein, même après nous avoir fait rire. Et là encore, c'est un peu convenu, quoique encore une fois bien écrit. La mise en scène qui s'efforce d'en donner à tout le monde et à tous les genres, du rire à l'émotion, ne sauve pas le film. Alors, il n'est pas raté parce qu'il y a dans ce ventre mou de comédie quelques belles saillies. Pour autant, mais ce deuxième long métrage du duo Mathieu Delaporte Alexandre de la Patelière manque de singularité et d'audace. Alors, ça nous donne quand même l'occasion de jouer, quoique il est un cran en dessous vraiment Bruel par rapport à Lucchini. Là aussi, quand on voit les deux jouer, bon, c'est très net.
Il n'est jamais très très bon, Bruel.
Il peut l'être quand même, je pense. Allez, on va faire un essai avec ce blind test. Donc, cinq films tirés de la filmographie du chanteur, acteur. C'est parti, premier extrait, très facile.
Tu l'as dit quand j'étais pas là. C'est Achille, hein?
Ah non, Babou, c'est pas Achille.
Mais tu l'as dit. T'es pas chouette, Vincent. Je t'avais demandé de m'attendre.
Babou, c'est pas le problème, je te jure.
Oh bah oui, c'est facile pour toi de dire ça.
Babou, ton frère...
Non, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse plus.
Babou...
Non, je ne veux pas savoir.
Écoute, Babou, ils veulent...
Non, je ne veux pas savoir. Vous n'avez pas voulu m'attendre, tant pis.
Tu veux pas savoir comment il va appeler son fils?
Non.
Bah, je vais te le dire quand même.
Bah, je t'écoute pas. Va, Nina. Ah, Nina.
Babou, arrête.
Voilà, bon, on l'entend pas, hein, Bruel, d'ailleurs, dans cet extrait.
Bah non, ouais. C'est le prénom,
oui.
Donc.
Oui. Donc, 3,3 millions de Français sont allés voir ce film, un des plus rentables de l'année 2012. Deuxième extrait.
Écoutez, je sais que c'est difficile, mais je voudrais juste vous parler. Je suis venue d'Orlande exprès pour ça. Il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, écoute...
J'ai pas envie de vous écouter. Cette histoire tient pas debout, ça fait trop longtemps. Hans, je l'ai connu que 3 semaines, le H, on l'a acheté pour se marrer, c'est tout.
Mais le problème n'est plus ce qui s'est passé avant, mais ce qui va se passer maintenant.
Ok, alors je vais vous dire ce qui va se passer maintenant. Je vais pas laisser tomber 6 ans d'études. On peut pas partir, d'accord? Si on part, on se retrouve en prison. Et là-bas, vous savez ce que ça veut dire. Ça peut durer combien de temps? 2 ans? 5 ans? 10 ans? Personne peut le savoir. Remarquez, pour vous, c'est facile, vous avez pas besoin d'y aller. Et vous pouvez peut-être passer l'examen à ma place.
Mais vous avez pas envie de comprendre que...
Non!
Oui, il était plus jeune.
Force majeure, oui. De Pierre Jolivet, 89.
Oui. Bien joué. 574 000 spectateurs pour voir ce film. Troisième extrait.
Dis-moi, tu t'es fait implanter une nouvelle paire de couilles là ou c'est toujours les vieilles?
Oh, ça doit faire bobo! Une chance que mon flingue a rien parce que chez nous on se fait beaucoup plus épingler pour dégradation de matériel, dégradation de clients. Enfin, je vais pas t'emmerder avec mes problèmes, je suis pas venu pour ça. Je suis juste venu te dire que l'autre jour ici, là, avant que t'ailles au pressing, tu m'as épaté. Et comme j'ai besoin d'un type épatant pour faire un petit travail avec moi, j'ai pensé à toi. Sympa, non? Comme dans ta caisse. Grimpe! On va faire un petit braquage.
Et pas avec ma bagnole, merde!
Ah ouais? Eh ben, tu vas choisir toi-même, puisqu'il paraît que c'est salon de l'auto toute l'année pour toi. Allez, bouge!
Bon, Manu, t'es vraiment imbattable sur Bruel, hein?
C'est profil bas de Clotilde, 93.
Eh oui, Julien Segal, inspecteur de police, va faire la taupe dans le milieu des dealers et ça a rassemblé 624 000 spectateurs en France.
Qu'est-ce que t'as à faire cette tête, toi?
J'étais pas assis à côté de moi. Tu les as pas vues, ces images? Es hebt sich ohne so wie Dämon.
On est en France, papa. La France, le pays de la liberté. Tu connais ça?
Et l'affaire Dreyfus, ça s'est pas passé en France?
Non, l'affaire Dreyfus, oi, abror.
Moi, c'est quand je vois ta tête que j'ai envie de dire oi, abror.
Quoi? Qu'est-ce que j'ai comme tête?
Une tête oi, oi, oi.
Une tête oi, oi, oi.
Aïe, 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 il nous fait rire, ton grand-père, hein?
Où ça?
T'es trop confiant, Maxime. Des Français qui aiment pas les yids, j'en connais des paquets.
Ah ouais, tu veux rien voir, mon vieux. Tu fais l'autruche.
T'entends ça, nana? T'es marié avec une autruche antisémite. Et tu m'aimes quand même.
Voilà, trouvé aussi.
Un secret de Claude Miller.
Et l'année?
Oh, je sais plus.
Non,
et le nombre d'entrées?
Non, bah oui, d'ailleurs, on pourrait jouer à ça aussi. 1,6 million d'entrées avec Cécile de France, donc, et Ludivine Sagné, adaptée du prix concours des lycéens 2004. Dernier extrait.
Tu peux pas mettre ça ici, hein?
Mais pourquoi, il y a de la place?
C'est réservé au ciné-club.
Bah Altman, quand même.
Oui, comme par hasard, le seul film commercial d'Altman.
Bah, je vois pas ce que tu peux lui reprocher, c'est du très bon cinéma. Il y a de l'action, il y a de l'humour.
Oui, un peu de violence, un peu de sexe. Excuse-moi, mais j'attends autre chose d'un film.
Ah bon? Et qu'est-ce que t'attends?
Qu'il m'interpelle quelque part, qu'il me fasse réfléchir.
À moi, pour réfléchir, j'aime mieux être tranquille, au calme, sans bruit, sans images.
Dans ces conditions, n'importe quelle connerie peut faire l'affaire.
Ah non, pas du tout. N'importe quelle connerie, ça peut faire l'affaire pour vous, les intelligents. Vous, on vous fait un plan de 3 minutes sur un œuf, aussitôt vous imaginez les mouillettes, la poule, Christophe Colomb, Yul Brynner. Avec les cons comme moi, c'est plus difficile, on peut pas leur faire n'importe quoi. Sinon, ils s'emmerdent, ils gueulent et ils s'en vont. Crois-moi, parvenir à intéresser même les cons, c'est ce qui demande le plus d'intelligence.
Bon, c'est une scène culte, normalement, d'un film français de 1985. Et ce qui est intéressant...
Patrick Schulman, ouais.
Oui. Et ce qui est intéressant de terminer avec celui-ci, c'est parce qu'il y avait déjà Fabrice Luchini qui lui donnait la réplique. C'était aussi un professeur.
Marxiste, je crois. Non, oui. Dedans, ouais. Il me semble. Hein.
Voilà, ainsi s'achève ce blind test spécial Patrick Bruel. Il y avait de nombreux films que j'aurais pu choisir, mais j'ai choisi ceux-là. Allez, c'est encore Marine qu'on retrouve pour défendre un film plutôt mélancolique.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser ?
Lorsque je repris conscience, je fus bien en peine de dire si je me trouvais parmi les vivants.
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. On ne sait comment est-ce qu'il est arrivé là, mais un jeune garçon, Tom, le trouve et le recueille. À son réveil, le prince va découvrir un monde qu'il ne connaît pas, une société bien loin de la sienne où règnent les préjugés et la discrimination qu'il ne va pas tarder à expérimenter lui-même.
Les sages de ton pays doivent être fiers d'avoir bâti une cité plus belle que partout ailleurs.
Voici le singe qui a traversé la mer.
Pour les Nuko, il n'y a pas d'ailleurs.
Et d'où sortent-ils, ceux-là ?
Ils vont combattre la forêt.
On dirait qu'elle se révolte.
Certains disent qu'elle se venge à cause de l'extension de la cité.
Tu n'es pas un animal, tu es un singe. Tu pourrais vivre ici, avec les bêtes sauvages.
Il faut aller plus loin.
Je viens avec toi. Tu m'entends, gamin ? Je viens avec toi.
Sixième long métrage de Jean-François Laguioni, Le voyage du prince, a été co-réalisé avec Xavier Picard. Alors Jean-François Laguioni est, à l'instar de Michel Osloo, l'un des vétérans de l'animation française, hein, puisque sa carrière a commencé en 65, période à laquelle il a réalisé ses premiers courts-métrages. D'ailleurs, toute la première partie de sa carrière sera consacrée aux courts-métrages, puisqu'il en réalisera pendant plus de 20 ans et recevra même la Palme d'Or et le César du meilleur court-métrage d'animation en 78 pour la traversée de l'Atlantique à la rame. Son plus grand succès à ce jour reste le long-métrage Le Château des Singes, film devenu culte sorti en 99, et Le Voyage du Prince s'avère en être une sorte de suite informelle, bien que les deux films puissent être vus séparément. Il est question ici des thématiques chères à Laguioni, déjà abordées dans Le Château des Singes, de la découverte de l'autre, de l'exploration intérieure, de la tolérance, mais il est également question d'écologie et d'humanité. Alors c'est bien sûr un très joli message qui est délivré au travers du film, accompagné par un rythme volontairement très lent, très très lent, qui évoque justement les œuvres de Michel Osloo, comme le récent Dilili à Paris. On est pendant une heure et demie pris dans une aventure merveilleuse, mais également philanthropique. La métaphore sur le monde qui nous entoure est évidente et la réflexion est constamment présente. Alors il est vrai qu'en 2019, voir un film comme Le Voyage du Prince peut sembler un peu surprenant pour notre regard de spectateur habitué à une animation rapide qui a évolué au cours des dernières années. L'animation du film peut sembler un peu datée à l'heure où on utilise notamment la rotoscopie, qui est un processus d'animation très réaliste qui consiste à faire jouer les comédiens et à dessiner ensuite sur ces images afin de reproduire la même fluidité de mouvement. C'était une technique, pour vous situer, qui avait déjà été initiée par le film Scanner Darkly en 2006 et qu'on a ensuite retrouvé récemment dans de nombreux films, notamment J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Dans Le Voyage du Prince, l'animation traditionnelle est à l'honneur. Alors il faut un temps d'adaptation pour s'y faire, mais à une époque où finalement tout va toujours plus vite, où on ne tourne même plus en 24 images secondes, mais en 48, voire en 120 images secondes, il est peut-être aussi important de faire des films doux et apaisés comme celui-ci.
Et de le faire en 2D, donc. Voilà, c'est ça.
Ah oui, complètement, voilà. Bien sûr. Oui, ça, je ne l'ai pas. Mais c'est oui. Parce que pour moi, il est normal de... Enfin, on n'a même pas à le préciser. C'est
l'animation classique,
oui. Oui, bien sûr, en 2D, normal.
Alors, le Château des Singes ressort, je crois, à l'occasion de la sortie, donc le film précédent.
Et on pourra donc les voir à la suite.
Enfin, dans certains cinémas, on précise. Voilà. On va bientôt terminer cette émission, mais avant, on va faire un détour vers le cinéma asiatique avec Un été à Changsha de Zhu Feng. C'est un polar psychologique.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
L'inspecteur Bean est quasiment un archétype, voire une synthèse du héros du film noir. Il fume clope sur clope, se shoot aux antidépresseurs depuis le suicide de sa petite amie, ne dort plus. Fatigué, il continue de mener une existence sans lendemain, se raccrochant à son métier de flic. Son coéquipier et ami l'aide comme il peut à maintenir un cap. Il est envoyé à Changsha, au cœur de la Chine, pour enquêter sur la disparition d'un jeune homme dont le bras a été retrouvé sur les bords de la rivière Xiang. L'enquête piétine jusqu'au jour où il rencontre une mystérieuse chirurgienne, Li Xiu, qui prétend être la sœur de la victime. Alors avec ses faux airs de Memories of Murder, Un été à Changsha déroute ne s'inscrit pas pleinement dans le genre auquel il est censé appartenir. Une veine sentimentale parasite le récit dès le début. Feng Shu s'intéresse davantage au spleen de l'inspecteur qu'à l'intrigue cousue de fil blanc, nous amenant vers des révélations hasardeuses jusqu'à la résolution de l'intrigue à la moitié du film. Alors cette construction s'avère surprenante et décevante, laissant une impression d'inachevé, comme si les auteurs se désintéressaient de la partie polar. Alors que raconter ensuite ? Ce que finalement le réalisateur a commencé à ausculter en creux, c'est-à-dire la description d'un pays malade, marqué par la dépression et la perte de repères. Malgré la chaleur étouffante qui baigne à Changsha, rien de lumineux ne traverse l'écran. Le réalisateur tisse un portrait sombre de la Chine moderne à travers ses personnages déchus, Bean et Lin, marqués par le destin. Alors ils vont tenter, tous les deux, de se donner une chance, de se reconstruire, mais la difficulté de communiquer dans une contrée qui a gommé les individualités demeure plus forte, dimension qui passe par cette belle métaphore de la tête à retrouver, symbole de la perte d'identité et d'une recomposition impossible. Passé ces belles promesses, le film déçoit par sa narration filandreuse l'impression d'assister à deux films qui n'arrivent pas à cohabiter ensemble, l'un assez mainstream, proche des meilleurs thrillers asiatiques, et l'autre plus mélancolique, laisse un goût d'inachevé. Alors Zhou Feng a du talent, il s'est installé une ambiance poisseuse, sa mise en scène élégante, tout en plan fixe, s'installant dans la durée, parvient à créer un malaise, mais il ne sait pas toujours où il va, se perdant dans une conclusion décevante, sans grand relief, plaquant alors un discours pessimiste plus morne que convaincant. Alors on sort de la salle avec cette impression un peu mitigée d'avoir assisté à un bon film, mais qui se révèle frustrant. Alors sentiment que partagent sans doute les deux rescapés, celui de ne pas avoir saisi la chance de sceller leur rencontre, d'apprendre à se connaître. Comédien d'ailleurs aperçu dans Mystery de Lou Ye et Coming Home du très connu, Zhang Yimou, le réalisateur Feng Zhu se révèle surtout avec son premier long métrage un remarquable directeur d'acteurs, posant sur ses personnages une empathie tangible que la caméra parvient à capter grâce au beau travail du directeur de la photo. Il s'est d'ailleurs donné le rôle principal, celui de l'inspecteur Bean, conférant une épaisseur à cette silhouette dépressive. Face à lui, Lu Wang, je ne sais pas comment on prononce,
On n'a pris aucun cours, voilà, donc forcément.
Dégage une aura mystérieuse, une fascination contagieuse qui enveloppe le récit d'un mystère dont le film, hélas, n'est pas toujours à la hauteur.
Un été à Changsha, donc en salle depuis le 4 décembre. Allez, puisqu'on a un peu de temps, on va revenir sur un film qui est déjà en salle depuis un petit moment.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, c'est Marine qui avait chroniqué le film de Polanski, Dreyfus, mais toi, tu l'as vu dernièrement.
Oui, et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit du tout un film académique. Moi, j'ai été impressionné, au contraire, par la rigueur de la mise en scène. Si on regarde bien, il y a une façon de dénuder les décors. C'est toujours hyper bien cadré. Enfin, il y a vraiment un travail sur le plan purement cinématographique qui rejoint pour moi un des grands cinéastes des années 40-50, c'est Fritz Lang. On compare souvent, d'ailleurs j'accuse à Hitchcock, ce qui est une erreur absolue, puisque chez Hitchcock, ce qui est important, c'est le suspense, le pourquoi, on s'en fout en général, alors que le sujet justement de l'innocent accusé, c'est le sujet le plus langien possible. Alors enfin, moi je trouve que pendant une heure et demie, le film est absolument parfait, avec un Dujardin que je trouve excellent. Seul reproche, je trouve que la dernière demi-heure, le virage, on va dire un peu grotesque, qui est habituel chez Polanski, là, il tombe un petit peu à plat. C'est-à-dire qu'on sait que Polanski, il est fan de bande dessinée, il y a un petit côté Tintin même dans J'accuse. Mais je trouve que ça fonctionne moins bien. C'est que d'un coup, il y a un dérapage vers quelque chose d'un peu grotesque qui finalement devient un peu déséquilibré par rapport à la rigueur qu'il y a pendant une heure et demie. Et voilà, moi, pendant une heure et demie, 1h40, je trouve que c'est un très grand film. C'est un peu dommage pour la suite.
Et il y a trop de moustaches aussi.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh,
C'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Bon, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma camp.
La semaine prochaine, on parlera encore cinéma, évidemment. Moi, je vous parlerai du dernier Terrence Malick.
Et moi, de It Must Be Heaven, le nouveau film de Suleiman, et puis de Jeune Juliette.
Et moi, d'une comédie qui s'appelle Docteur avec Michel Blanc.